Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, RMC Story, et ça y est, vous le savez, c'est le jour J, on en parle depuis des mois, et c'est donc aujourd'hui que le projet de loi sur la réforme des retraites devrait être voté à l'Assemblée nationale. Une journée, Rémi, qui promet d'être très très mouvementée, et qui a déjà commencé dans ce sens.
Fébrilité, c'est le mot qu'il faut retenir pour qualifier de ce qui se passe en ce moment. Depuis ce matin, Emmanuel Macron a multiplié les consultations avec les chefs de sa majorité, à quelques heures d'une séquence parlementaire, on le sait, décisive pour la réforme des retraites, à peine sorti de l'Élysée, où ils avaient été conviés pour une réunion matinale vers 8h du matin. Les responsables du camp présidentiel sont à nouveau réunis depuis quelques minutes au palais présidentiel, à 3h de la séance publique au palais Bourbon. Car si le Sénat a sans surprise voté ce matin en faveur de la réforme, 193 voix pour contre 114, le suspense est encore entier sur l'issue, voire même sur la tenue d'un vote à l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors, vote ou 49-3. Selon certaines sources, Emmanuel Macron pourrait être en train de prendre sa décision en ce moment même. D'après l'entourage présidentiel, les téléphones continuent de chauffer avec les députés LR et ceux du groupe centriste, eux qui sont déterminants, leur vote pour que ça passe ou pas. Et la première ministre, Elisabeth Borne, fera sa recommandation en début d'après-midi, avant la décision finale. Mais du côté des députés de droite, les Républicains, dont l'apport, encore une fois, est décisif, on est entre 30 et 35 pour, une vingtaine contre, ce qui rend un vote très, très risqué. Ça, c'est ce que dit le chef des sénateurs LR, favorable au texte, Bruno Retailleau.
Et c'est vrai que ça fluctue depuis ce matin, que ce soit, enfin, on entend beaucoup de choses sur RMC.
On a des chiffres, on nous dit ça jouerait à 4 ou jusqu'à 7 voix, mais c'est très peu.
Et les choses sont encore en train de changer, et évidemment on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe grâce à Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC, et Sébastien Krebs, notre envoyé spécial du côté de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron peut-il encore sortir gagnant de toute cette affaire, Fred Hermel?
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que quel que soit le résultat, si ça ne marche pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas le vote et qu'ils sont obligés de passer par le 49-3, ça sera un échec pour Macron. Il s'était présenté comme le président des réformes. Ça restera la seule réforme possible. Il l'aura imposé. Il n'aura pas réussi à trouver une majorité. Par contre, si ça passe, s'il y a un vote, c'est la victoire d'Elisabeth Borne. Parce qu'Elisabeth Borne, en fait, simplement parce que Macron est impliqué, mais depuis 2 heures, là, enfin, ou depuis hier
soir. Oui, c'est ça, on l'avait pas vu.
On l'avait pas vu, pardon, du tout. C'est là,
un
du tout.
Il était derrière, il tirait les ficelles.
Je te parle. Attends, là, on parle sur l'image. La question, va-t-il sortir gagnant ou pas? C'est l'image qui va rester. Si ça passe, bravo Elisabeth Borne, parce que elle est chef du gouvernement, mais elle est surtout, enfin, aussi chef de la majorité. Et donc, ça veut dire que cette petite dame, moquée au début, etc., si elle réussit, elle, à trouver la majorité pour faire voter cette loi qui est très importante pour l'histoire même des deux quinquennats, et ben là, la gagnante sera Elisabeth Borne, et le perdant, si ça va pas, le perdant, ce sera Emmanuel Macron. Donc en fait, il y a pas grand-chose pour lui, quoi.
Ouais, c'est ça, il est perdant à tous les coups. A priori, quand même, Anne-Sophie Saint-Père, on se dirigerait là, dans quelques heures, vers un vote et non pas un 49-3. Est-ce que ça, au moins, c'est une bonne chose? Emmanuel Macron l'a répété, il veut aller au vote.
Alors, je sais pas si c'est... Enfin, effectivement, ça, en termes d'image, c'est mieux qu'un 49-3. Reste que tous les autres outils de brutalité parlementaire ont été utilisés au cours de la procédure. Et que le maximum qu'Emmanuel Macron et son gouvernement puissent gagner, ce sera un vote serré. Par contre, moi, je suis assez inquiète de ce que ça va envoyer en termes de messages sur la confiance dans les politiques, sur la crédibilité des politiques.
Après, si c'est voté, c'est voté, hein.
Mais qu'est-ce que les Français ont vu depuis le début? C'est-à-dire qu'on leur a annoncé une réforme parce qu'il fallait sauver le système des retraites. Puis quand on va regarder dans les documents, en fait, c'est quand même plutôt présenté comme quelque chose pour compenser des baisses d'impôts et de cotisations. On leur a annoncé un minimum à 1200 euros pour tout le monde, ça a été démonté. On leur a annoncé qu'il n'y avait pas de perdants. Bon, en fait, ça a été largement démonté. Elle fait des perdants, cette réforme. Donc en fait, on n'a pas arrêté à chaque étape... Et des perdantes, évidemment. On n'a pas arrêté à chaque étape de passer en force. Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Ils vont retenir un président qui est élu, qui reconnaît qu'il est élu contre le Rassemblement National et qui reconnaît qu'il n'est pas élu que sur son programme et qui aujourd'hui passe en force en disant c'était dans mon programme, donc vous m'avez élu pour ça. Donc en fait, tout ce qu'on pouvait avoir en termes de confiance en politique et s'effondre aujourd'hui. Alors c'était déjà pas très élevé, mais moi je crains un peu pour l'avenir, pour la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. Et à mon avis, les seuls qui sont en train de gagner un peu aujourd'hui, ce sont les députés républicains et centristes qui sont en train de négocier des choses pour leur vote.
Ils sont en minorité, mais qui font la loi en fait.
Qui font la loi. Mais là, 90% des actifs en France s'opposent à cette réforme. Elle passe en forme, en force. Elle passe dans des conditions où on a refusé.
Elle n'est pas passée. Hein.
Ouais, elle risque de passer en force. Dans des conditions où on a refusé de prendre le temps de discuter de toutes les alternatives, ça va laisser une tâche assez difficile sur les institutions.
Thierry Moreau, Emmanuel Macron a laissé planer la menace de la dissolution. Oui. Est-ce qu'à minima, que la réforme passe ou pas, il doit changer son gouvernement?
Je pense qu'il y a quelques têtes qui vont changer après cette histoire, parce qu'il y a des point faible dans mais même au-delà du problème de la réforme des retraites, on voit que le ministère de l'Éducation par exemple, il y a des points de faiblesse, etc. En revanche, moi je pense qu'il a gagné cette part. Il a déjà gagné parce qu'il y a deux solutions. Soit la loi passe à une voix près. Je rappelle que la République en 1875 a été votée, inscrite dans la Constitution à une voix près. Je rappelle que Sarkozy avait voté la Constitution, le changement de Constitution à une voix près en 2008. Donc une voix près, ça suffit, c'est démocratique, c'est voté, c'est plié. Oui. Premier point. Si jamais il ne va pas au vote, moi je pense qu'il va aller au vote. Mais si jamais il va pas au vote, 49-3, je suis désolé de t'entendre dire que c'est de la brutalité, du forçage. Ça fait partie des outils politiques.
Mais c'est quand même
et
brutal.
Ça m'énerve.
Non, mais Thierry,
excusez-moi. Ça m'énerve aujourd'hui d'avoir une partie de la classe politique fraîchement élue, ne connaissant pas les mécaniques parlementaires, se plaignant d'une CMP, du 49-3. Ce sont les outils parlementaires.
C'est pas pour ça qu'ils sont pas
elle a marché, elle a fonctionné plusieurs fois sous la Ve République, le 49-3 aussi. Ce sont des outils parlementaires.
Et on a
une opposition de gauche, excusez-moi, qui est vent debout en disant c'est des passages en force. Non, c'est un outil parlementaire.
Mais attendez,
et surtout,
il n'y a pas que la gauche. Il n'y a pas que la gauche qui dit que c'est un passage en force, oui, Thierry.
Je rajouterai un dernier élément. Ceux qui aujourd'hui nous disent que le texte qui est soumis au vote est un amalgame avec des compromis avec les LR, je vous rappelle que ce sont les mêmes qui font la promotion de la 6e République avec une proportionnelle intégrale. Proportionnelle intégrale, ça ne peut passer que par des compromis entre partis, que par faire des bouts de chemin avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Ce qui se fait actuellement, c'est la mise au centre du jeu du Parlement, et si ce texte passe, ce sera la victoire du Parlement.
Mais là-dessus, tu as raison, c'est-à-dire que si le texte passe, bon, a priori, il n'y a plus rien à dire. Mais je suis désolée, le 49-3, alors que tu as 93% des actifs qui vont donc travailler 2 ans de plus, qui sont contre la réforme, que tous les syndicats, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une intersyndicale unie, sont contre la réforme, la majorité des Français est contre la réforme, et tu fais un 49-3 alors que tu as été élu en disant qu'en plus le résultat du deuxième tour t'obligeait à écouter les Français, ben non, il y a un problème.
Ça fait partie des outils parlementaires.
Oui,
parlementaire.
Oui, l'image, c'est
mais
pas
c'est
possible.
Un outil brutal.
Ça, c'est
désolé,
un autre problème.
Mais
je pense que très vite.
Thierry, mais, enfin, je pense que très vite, il faudra depuis hier, non, mais appeler chaque député en leur disant attention, votre circonscription, vous inquiétez pas, aux prochaines élections, on vous embêtera pas, vous allez être élu. Enfin, il y a des marchandages, c'est bien parce qu'il veut éviter le 49-3.
Je pense qu'on est déjà dans l'après. Je pense que dans 15 jours, tout le monde aura oublié que ce sera passé en 49-3. Les oppositions les plus radicales se seront déjà éteintes, mais c'est un deuxième sujet, on en parlera tout à l'heure.
Exactement.
Mais je peux vous dire que je pense que dans un an, on se foutra de savoir si c'est passé en 49-3, la réforme sera adoptée.
Oui, non, mais peut-être, mais en tout cas, là,
je pense que les gens, ils ont envie qu'on passe à autre chose, là, maintenant.
Non, mais ce que retiennent les gens, c'est que cette réforme, elle a été mal amenée, elle est mal ficelée.
Ah, mais ça, on est d'accord.
Elle ne plaît à personne.
Mais ça,
personne n'est content de cette réforme. Je suis même sûre que Macron n'est pas content de cette réforme.
Mais bien sûr, à un moment, il faut tourner la page.
Donc, il y a un problème. Il ne faut pas tourner la page. Il aurait peut-être fallu, effectivement, négocier un peu plus avec les syndicats.
C'est trop tard.
C'est trop tard.
Maintenant, il faut tourner la page, passer à autre chose.
Mais d'accord, c'est de la faute de qui?
Pardon? Ah, ben, c'est la faute, je pense, du gouvernement qui l'a mal expliqué. La réforme qui était mal construite. Le fait d'avoir bypassé les corps intermédiaires. D'avoir travaillé avec Laurent Berger, de ne pas être revenu à une réforme à point. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne va pas. Et maintenant,
il faut
tourner la page.
Rémi sur l'appli RMC. Ouais. Après, on prendra Delphine qui patiente au standard.
Et chacun, il va de son pronostic. Hein. Samira, notamment sur Direct Studio, qui nous dit bonjour Estelle, Emmanuel Macron va sortir gagnant parce que la réforme va passer. Je ne crois pas au soi-disant doute sur les voies manquantes. La droite va voter. Les députés de la majorité vont voter. Les doutes sont une méthode couée pour faire croire qu'elle ne va pas passer. Il n'y aura pas de dissolution. Ce serait trop risqué pour le pouvoir. Voilà, ce sont les pronostics de Samira. Et puis il y a Rally qui nous dit bonjour Estelle et toute l'équipe, cette réforme des retraites sera une plaie qui ne se refermera jamais pour Emmanuel Macron. Les syndicats et le peuple voudront lui faire payer jusqu'au bout.
Alors on est avec Delphine qui nous appelle du Morbihan, de Lanester dans le Morbihan. Bonjour Delphine.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Ouais, voilà, je pense que Macron, de toute façon, hein, malgré qu'il va passer sa réforme, il sera perdant. Parce que les gens vont pas oublier, il y a de la colère. Et la colère, elle va se ressentir après dans les urnes. Alors, malheureusement, je pense les extrêmes, ce qui ne sera pas mon cas. Hein, j'ai pas voté Macron, j'ai voté blanc. Malheureusement, le blanc ne compte pas, mais je suis très en colère contre cette réforme. J'ai plus confiance, ni aux politiciens, ni aux mes députés. Et même si je vais aller voter, je vais continuer à voter blanc parce que pour l'instant, personne ne représente le peuple. Et cette réforme montre on ne nous a pas écoutés dans les rues. J'ai pas pu aller manifester dans toutes les manifestations parce que je suis assistante familiale et que le congé des enfants, compliqué. Je ne peux pas y aller. Oui. Dans les manifestations, on voit de toutes catégories socio-professionnelles et on en parle, que qu'on soit syndiqué ou non. De cette colère qui gronde. Donc peut-être qu'après il y aura encore d'autres manifestations beaucoup plus virulentes, ce que je pense pas, mais en tous les cas ça se retrouvera après sur les urnes.
Ouais, et pour vous, il ne peut pas sortir gagnant de toute cette histoire. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous. Il fait quel temps dans le Morbihan?
C'est très beau, on a du soleil.
Bah, bien sûr.
C'est très bien.
Bah, oui, comme chaque jour en Bretagne. Hein. Bah, voilà, bien sûr, exactement. Delphine, comme d'habitude. Et bah, écoutez, profitez bien de ce grand soleil. Merci Delphine d'avoir été avec nous. Delphine soulevait un point que tous les syndicats ont soulevé, notamment Laurent Berger et Philippe Martinez de la CGT. C'est-à-dire que là, on sent la contestation monter. Oui, la réforme, elle va certainement passer. Mais en revanche, les prochaines élections, ça risque d'être la douche froide, en fait, et la montée des extrêmes.
Je n'ai pas d'avis très clair là-dessus, parce que je suis un peu obligé de reconnaître que Thierry a raison dans le fait, la trace que va laisser, une fois que ce sera passé, les gens vont passer à autre chose. Je pense vraiment, quoi.
Bon, enfin, il voulait laisser une grande trace dans l'histoire, je suis sûr.
Mais oui.
On étudie cette réforme dans les livres d'histoire dans 20 ans.
Voilà, non, je pense que Macron restera comme le président qui a amené Marine Le Pen au pouvoir. C'est le plus gros risque pour lui aujourd'hui.
Mais c'était ma question, là.
Oui, voilà.
D'accord.
Bon. Mais les élections, alors, quelles élections tu parles? Tout va dépendre, en fait, s'il y a dissolution ou pas. Quelles seront les prochaines élections? Parce que s'il y a dissolution, là, ça peut se payer cher. Après, si c'est pour la prochaine présidentielle, c'est dans 4 ans.
Bah oui.
C'est dans 4 ans.
N'oublions pas que qui aurait vu en 2017 qu'on aurait eu le Covid, qu'on aurait la guerre en Ukraine, etc.
Mais ça bouleverse tellement de choses. Et surtout, il peut s'emparer une fois cette page tournée qui est en train de se tourner rapidement. Il peut s'attaquer à l'emploi. Il peut s'attaquer au pouvoir d'achat. On a une crise bancaire qui commence à pointer le nez. Je peux vous dire que il y a des sujets sur la table. Il y a des sujets sur lesquels beaucoup de choses peuvent se passer avant les prochaines élections.
Absolument. Voilà, donc bancaire, Bruno Le Maire nous a dit qu'il fallait vous inquiéter. Donc,
justement, vous
inquiéter. Exactement. Arnaud Benedetti est notre invité sur ce débat, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Arnaud, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, vous savez que là, on fait tous nos petits paris, nos petits comptes d'apothicaire. Qui êtes, évidemment, dans la politique depuis de très très nombreuses années, ça va passer ou pas cette réforme?
Je n'en sais strictement rien, en l'occurrence. Je ne prends aucun risque. Ce qui est sûr, c'est que, au dernier comptage, ça apparaît, en effet, pour l'instant, assez serré. Après, vous savez, dans ce type de situation, on sait que depuis quelques jours, et on l'a vécu par le passé, l'exécutif essaye d'aller chercher les parlementaires un par un, avec les dents, d'une certaine manière. Donc, on peut imaginer que ça pourrait passer, mais ça passera ric-rac. Après, la vraie question, c'est de savoir ce qui va sortir de la réunion qui est en train, je crois, de se dérouler à l'Élysée, entre les chefs de la majorité. Est-ce que Emmanuel Macron va aller au vote ou va-t-il faire usage du 49-3? Moi, depuis le début, je pense qu'il fera usage du 49-3.
Jusqu'à
présent, manifestement, il ne souhaite pas utiliser cette arme constitutionnelle. Il y a une prise de risque. Il y a quand même une prise de risque. Le 49-3 sécuriserait d'une certaine manière le vote, même si mécaniquement, je pense, il entraînerait le dépôt d'une motion de censure.
Ben oui, et puis vous dites que ça sécuriserait le vote, mais c'est quand même l'assurance d'avoir une grosse contestation dans la rue, le 49-3. Ça veut quelque part dire aux Français, je me fiche totalement de ce que vous pensez et je vais contre vous, quoi.
La réalité, c'est que le pari, j'allais dire, moi je parle d'une manière clinique en l'occurrence, c'est que le pari que fait Emmanuel Macron, c'est de considérer qu'une fois le texte adopté, il y aura un mécanisme ou un effet psychologique qui entraînera une démobilisation. Alors, c'est un pari, hein. Il est comme tout pari, d'une certaine manière risqué. On voit quand même depuis quelques jours que les mobilisations tendent à être moins importantes, mais moi je pense que ça laissera, si vous voulez, un impact sur le fond, c'est-à-dire peut-être pas tout de suite, si jamais le texte était adopté. Je ne crois pas à une recrudescence des mobilisations, je peux me tromper, mais ça laissera en effet, disons, un impact sur cette défiance, cette méfiance quand même très forte aujourd'hui de larges segments de l'opinion dans les institutions et dans le président de la République. Vous savez, il y a eu, il y a une semaine, le baromètre de la confiance qui a été publié par le Cevipof, le Centre d'études sur la vie politique et l'opinion publique française, qui est très intéressant et qui chaque année mesure la confiance dans les institutions. Et quand on regarde les résultats de ce baromètre, ils sont en effet particulièrement inquiétants les institutions et bien évidemment aussi pour celui qui est en charge des institutions, qui est le président de la République.
Est-ce que de toute façon le président de la République est obligé de faire des changements, je veux dire, à partir de demain, qui est 49-3 ou pas 49-3?
Ben, tout dépendra du résultat du vote. Il est évident que si ce soir le texte n'est pas adopté, on rentre dans une séquence politique qui sera extrêmement incertaine, où la première ministre, Madame Borne, sera fortement fragilisée. D'ailleurs, j'entends déjà une petite musique au sein même de la majorité, notamment venant du groupe Horizon, où on considère que la méthode Borne ne marche pas. Donc clairement, si ce soir, à 17h30, le texte n'était pas adopté, il y aurait vraisemblablement une question qui se poserait sur le destin de la Première ministre.
Mais si ça passe, elle est renforcée.
On verra bien. Tout dépendra finalement de la suite des mobilisations sociales dans la rue. Mais il est clair qu'on sait très bien que le président de la République aime de temps à autre faire des réglages à l'intérieur de son équipe.
Là, ce ne sera pas un réglage.
Donc on verra ce qu'il en est.
Et il va changer la voiture, hein, carrément. Parce que là, à mon avis, il y a plus que des réglages à faire.
Ce ne sera plus une voiture thermique.
Oui, merci beaucoup Arnaud Benedetti, merci. En tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis on continue à faire nos petits comptes d'apothicaire. Oui, Rémi.
Pour l'instant, pas de fumée en provenance de l'Elysée.
Ni blanche, ni grise.
Non, rien.
Non, la fumée, ça pollue, vous le savez.
Non,
rien.
Allez, on va terminer avec Yves qui nous appelle de Vénissieux. Yves, qui est technicien informatique. Salut Yves.
Oui, bonjour à vous.
Et merci d'être avec nous. Allez-y Yves.
Merci. Je voulais d'abord commencer par une petite généralité que je pense que beaucoup de personnes ont observée. Est-ce que M. Macron va s'en sortir gagnant? Moi, je pense que la réponse est oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, depuis le premier mandat, c'est quand même le gouvernement anguille. Et n'oubliez pas que quand c'est une information qui est mal accepté, on a des représentants du gouvernement qui viennent sur des plateaux pour nous expliquer qu'on avait mal compris. C'est de la redondance, de redondance, de redondance, de redondance. On est d'accord. Aujourd'hui, les gens sont dans la rue, mais je vous rappelle quand même que pour la réforme de retraite, il y a eu peut-être M. Véran, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui avait expliqué qu'on avait mal compris. Bon, oui. Visiblement, il y a un problème dans sa com, premièrement. Ensuite, deuxièmement, si ce texte passe, moi, il y a un truc qui me fait rire dans la démocratie française. Ce sont les votes. Parce que je vous rappelle que le texte, là, qui est réformé, c'était un texte qui était dans le marbre. C'était une loi. Donc, demain, on va nous dire, ah, mais il a été voté, c'est terminé maintenant. C'est la loi, vous savez. Vous savez ce que la solution, ce que c'est? C'est qu'une fois qu'il sera voté, par un 49-3 ou autre chose, vous reproposez un texte et vous le refaites voter pour revenir en arrière. Vous savez quoi? C'est la loi. S'il est voté, il passe.
Jamais une réforme des retraites, jamais on est revenu sur une réforme des retraites. Ah c'est jamais arrivé.
C'est
jamais
arrivé. C'est la capacité à pouvoir revenir.
Oui, mais c'est ce qu'on. Oui.
Et ben on la vote. Attendez, on nous dit qu'on peut pas revenir sur les lois. On est en train de.
C'est pas. Non, on peut, mais personne ne le fait parce qu'au final, tout le monde sait que de toute façon, il faut les réformer ces retraites.
C'est la possibilité légale de le faire.
Oui, mais personne n'a jamais fait.
On sous-entend que légalement, c'est impossible. C'est pas vrai. Ensuite, vous voudrez.
Marine Le Pen, à l'instant, elle-même dit que lors de la prochaine alternance, donc elle se voit comme étant la prochaine alternance, elle reviendra sur la loi, sur la réforme. Hein. Donc,
oui, parce qu'elle prépare déjà les prochaines élections présidentielles. On peut revenir sur la loi, ça, il y a pas de souci, mais personne ne l'a jamais fait parce qu'en fait, évidemment,
ils sont tellement très contents d'avoir.
De toute façon, comme tout le monde est toujours contre la réforme des retraites, une fois que quelqu'un d'autre l'a fait passer, vous êtes bien content que finalement elle soit passée et que vous n'ayez pas eu à vous mouiller. Merci Yves d'avoir été avec nous. On va terminer Rémi avec des messages et puis le résultat de notre consultation sur Twitter.
Allez, j'ai ce message d'Alex qui nous dit tout le monde trouve aujourd'hui la voie référendaire, parce qu'on l'a pas évoqué, comme étant une solution démocratique. N'importe quoi, tout le monde votera pour la retraite à 50 ans, voterait pour une retraite à 50 ans, pour une durée du travail de 15 heures par semaine, pour une pension, des pensions multipliées par deux, sans poser de questions de conséquences. Avec la logique référendaire, on aurait, allez, ça me fait rire, Nabila, ministre de la Culture, Franck Ribéry, porte-parole, démocratie, la démocratie directe, elle s'adresse à une population politisée et non pas à des TikTokers. À bon entendeur.
Alors, le résultat de notre sondage sur Twitter, Emmanuel Macron peut-il sortir gagnant de cette histoire?
C'est non pour une majorité assez imposante quand même, pour 66% des personnes interrogées sur nos réseaux sociaux.
Je pensais que ce serait plus.
66, c'est pas mal quand même.
Oui, c'est pas mal, c'est pas non plus écrasant. Non.